28. Ce soir-là, Luc montra un de ses jetons à la caméra de l'ordinateur pour le réveiller, et il rendit visite à M. Griffin. Que cela soit encore possible constituait un signe d'espoir. Évidemment, les connards qui dirigeaient cet endroit connaissaient peut-être l'existence de cette porte dérobée, et alors ? Cette question débouchait sur une conclusion qui semblait plus solide, à ses yeux du moins. Les sbires de Sixby pouvaient le surprendre en train de reluquer le monde extérieur, c'était même probable, mais jusqu'à présent, ça ne s'était pas produit. Il n'espionnait pas son ordinateur. Il faisait preuve de négligence dans certains domaines, se dit-il. Nombreux, peut-être. Mais fallait-il s'en étonner? Il ne surveillait pas des soldats retenus prisonniers, uniquement une bande de gamins désorientés et apeurés. À partir du site de M. Griffin, Luc accéda à celui du Star Tribune. La une du jour était consacrée au combat permanent autour de l'assurance santé. Une terreur familière, provoquée par ce qu'il risquait de découvrir à l'intérieur du quotidien, s'insinua en lui, et il faillit revenir à la page d'accueil. Il pourrait effacer l'historique, éteindre l'ordinateur et se coucher, prendre une autre pilule peut-être. Ce que vous ignoriez ne pouvait pas vous faire souffrir, affirmait un dicton. N'avait-il pas suffisamment souffert aujourd'hui? Puis il pensa à Nick. Nicky Willholm aurait-il reculé s'il avait connu l'existence d'une porte dérobée comme M. Griffin? Certainement pas. Mais Luc n'avait pas le courage de Nicky. Il revit Winona lui tendant les jetons. Quand il en avait fait tomber un, elle l'avait traité de maladroit et lui avait ordonné de le ramasser. Ce qu'il avait fait, sans émettre la moindre protestation. Nick aurait réagi différemment. Luc pouvait presque l'entendre dire « Ramasse-le toi-même, Winnie. » Prêt à encaisser le coup qui aurait suivi. Peut-être même qu'il l'aurait rendu. Mais Luc Ellis n'était pas comme ça. Luc Ellis était un gentil garçon qui faisait ce qu'on lui disait de faire, qu'il s'agisse d'accomplir des corvées ménagères ou de jouer dans une fanfare à l'école. Il détestait cette foutue trompette. Une note sur trois lui arrachait les tympans. Mais il continuait, car M. Greer tenait à ce qu'il fasse au moins une activité extrascolaire autre que du sport en salle. Luc Ellis était le genre de garçon qui se donnait du mal pour se montrer sociable, afin de ne pas passer pour un taré, en plus d'être un surdoué. Il cochait toutes les cases des relations sociales, après quoi il replongeait dans ses livres. Car il existait un abîme, et les livres renfermaient des incantations magiques qui faisaient remonter ce qui se cachait au fond. Tous les grands mystères. Et pour Luc, ces mystères avaient de l'importance. Un jour, plus tard, peut-être qu'il écrirait des livres lui aussi. Mais ici, le seul avenir s'appelait l'arrière, et la vérité de l'existence se résumait à cette question « À quoi bon ?»« Et puis merde » murmura-t-il. Il consulta les rubriques locales du Star Trib. Son cœur cognait dans ses oreilles et faisait palpiter les petites plaies qui déjà se refermaient sous les bandages. Dès qu'il vit sa photo, prise au collège l'année précédente, il comprit. Il n'avait même pas besoin de lire le gros titre. Les recherches se poursuivent afin de retrouver le fils du couple de Falcon Heights sauvagement assassiné. Les lumières colorées réapparurent, tourbillonnantes et palpitantes. Luc plissa les yeux, éteignit l'ordinateur, se leva et regagna son lit d'un pas tremblant sur ses jambes qui semblaient ne plus lui appartenir. Il s'allongea dans la lumière douce de la lampe de chevet, les yeux fixés au plafond. Enfin, ces saloperies de points psychédéliques commencèrent à s'atténuer. Le couple de Falcon Heights, sauvagement assassiné. C'était comme si une trappe dont il ignorait l'existence jusqu'alors venait de s'ouvrir dans son esprit, et une seule pensée, limpide, solide, puissante, l'empêchait de passer au travers. Il m'observe peut-être. Il ne connaissait pas le site de M. Griffin. Il ne savait pas qu'ils pouvaient s'en servir pour accéder au monde extérieur. De même, ils ignoraient que les lumières avaient provoqué un changement fondamental dans son cerveau. Ils croyaient que l'expérience avait échoué. Pour le moment, du moins. Voilà les éléments dont ils disposaient, et ils pourraient se révéler précieux. Les sbires de Sixby n'étaient pas omniscients. Le fait qu'ils puissent encore accéder à M. Griffin en apportait la preuve. La seule forme de rébellion à laquelle il s'attendait de la part des résidents était celle qui s'exprimait ouvertement. Une fois qu'elle avait été matée par la peur, les coups ou les décharges électriques, les résidents pouvaient même être laissés seuls un court instant, comme Joe et Haddad l'avaient fait avec George et lui dans la salle C11 pour aller chercher un café. Sauvagement assassiné. Ces deux mots ouvraient la trappe. Il serait si facile d'y tomber. Depuis le début, Luc était presque sûr qu'il mentait. Mais le « presque » maintenait la trappe fermée. Il autorisait un faible espoir. Ce gros titre en caractère gras tuait l'espoir. Et puisque ses parents étaient morts, sauvagement assassinés. Qui était le principal suspect? Le fils qui avait disparu, évidemment. La police chargée de l'enquête savait maintenant qu'il était un enfant spécial, un génie. Et les génies n'étaient-ils pas fragiles? Susceptibles de dérailler? Kalisha avait hurlé son désir de rébellion, mais lui ne le ferait pas, si forte soit son envie. Intérieurement, dans son cœur, il pouvait hurler autant qu'il voulait, mais pas à voix haute. Il ne savait pas si ses secrets pourraient lui être utiles, mais il savait qu'il y avait des fissures dans les murs de ce que Georges avait appelé fort justement cet enfer. Et s'il parvenait à utiliser ses secrets, et son intelligence prétendument supérieure, comme on manie un pied de biche, il pourrait peut-être élargir une de ces fissures. Il ignorait s'il était possible de s'évader, mais s'il trouvait un moyen de le faire, ce ne serait qu'un premier pas vers un objectif plus large. Faire s'abattre cet institut sur eux, songeait-il. Comme Samson avait provoqué la chute du temple de Dagon, après que Dalila l'avait embobiné pour qu'il se coupe les cheveux. Et les écraser. Tous. Au bout d'un moment, il plongea dans un sommeil léger. Il rêva qu'il était chez lui, avec sa mère et son père, vivants. C'était un rêve agréable. Son père lui rappelait qu'il devait sortir les poubelles. Sa mère confectionnait des pancakes, que Luc inondait de sirop de mûre. Son père mangeait le sien avec du beurre de cacahuète en regardant les infos matinales sur CBS. Gayle King et Nora O'Donnell, super sexy. Puis il partait travailler en embrassant Luc sur la joue et Eileen sur la bouche. Un rêve agréable, oui. La mère de Rolf emmenait les garçons à l'école tous les jours. Quand elle klaxonna devant la maison, Luc sauta sur son sac à dos et se précipita vers la porte. « Hé, n'oublie pas l'argent de ton déjeuner !» lui cria sa mère. Mais ce qu'elle lui tendait, c'était des jetons. Luc se réveilla alors et s'aperçut qu'il y avait quelqu'un dans sa chambre.